Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon? Tout d'abord, merci à AVEC pour cette nouvelle invitation. Comme l'a dit Georges, ça fait plusieurs années, je crois depuis 2021. Enfin, il y a eu des petites années où je ne suis quand même pas venu, hein, parce qu'il faut bien alterner. Mais du coup, cette année, c'est un peu particulier puisque les fois précédentes, j'étais venu présenter mon travail qui était en cours. Dans le cadre d'une thèse de doctorat en géographie que je réalisais à l'époque à l'université Savoie-Mont-Blanc. Et finalement, le travail il a avancé, les années sont passées, et après 3 années, donc j'ai fini ma thèse. Je l'ai amenée, si certains veulent la feuilleter, alors vous n'aurez peut-être pas le temps de toute la feuilleter. Et donc, c'est un travail qui est soutenu depuis juillet l'année dernière. Donc, qui peut être considéré comme achevé, même si en fait il y a toujours possibilité de rajouter, d'enrichir, de compléter. Et donc, l'idée de cette conférence, c'était à la fois de me centrer sur les territoires alpins et pyrénéens pour vous faire un peu voyager, mais également de revenir de temps en temps, là, dans ma présentation, sur des exemples dans la vallée de la Maurienne et aussi sur fond couverte. Mais je vais commencer par une présentation un peu générale. Voilà un peu les secteurs que j'ai étudiés pendant 3 années, donc entre 2022 et 2025. Ces trois secteurs, c'est principalement les Alpes françaises, italiennes et les Pyrénées espagnoles. Donc dans les Alpes françaises, j'ai pu étudier le massif du Chablais en Haute-Savoie, la vallée de la Maurienne, hein, où on se trouve en Savoie. Une grande partie du secteur du Gapençais autour de Gap dans les Hautes-Alpes. Et une très grande partie du département des Alpes de Haute-Provence. Côté italien, mes secteurs d'études étaient à cheval sur le Val d'Aoste et le Piémont, dans le massif du Grand Paradis. Et je sais que ça a pu interroger certains la photographie de présentation. Ce n'est pas dans la vallée de la Maurienne, ça se situe dans le Val d'Aoste, dans la vallée de Valgrisanche. Alors, à vol d'oiseau, depuis Tignes ou Val d'Isère, ce n'est pas très loin. Par la route, ça l'est un peu plus. J'ai également étudié une toute petite vallée qui se situe dans le sud du Piémont, le Val Grana, et une grande partie de la partie nord des Pyrénées aragonaises. Avec donc au total 81 villages étudiés. Sur ces 81 villages, en 2025, il y en a 41 de toujours abandonnés et 40 qui ont été abandonnés et qui reprennent vie. Et du coup, ma présentation, elle va s'articuler en 3 temps assez simples. Pourquoi est-ce que ces villages de montagne ont été abandonnés au cours du siècle dernier? Qu'est-ce qu'il se passe à partir du moment où ces villages sont totalement délaissés? Et je terminerai avec un temps un peu plus court sur les formes possibles de résurrection de certains de ces villages. Alors la petite difficulté, c'était quand même d'arriver à concilier le fait que la situation dans les Alpes françaises et italiennes, elle est assez semblable. Par contre, avec les Pyrénées espagnoles, il y a quelques petites dynamiques différentes. Néanmoins, finalement, cette vague d'abandon, elle s'inscrit dans un contexte général qui est celui de l'exode rural qu'a connu les territoires ruraux d'Europe occidentale et plus particulièrement les territoires ruraux montagnards au cours du siècle dernier. Donc c'est ce qui faisait un peu en quelque sorte l'exode rural, le dénominateur commun entre ces 81 villages. Je vous ai mis une seconde carte ici qui se centre plutôt sur la vallée de la Maurienne, un peu pour vous montrer les sites que j'ai pu étudier. Mais je voulais avant ça vous avertir, hein, ce travail de thèse, ce n'était pas un inventaire. Mon objectif, ce n'était pas de dire, voilà, il y a 10 000 villages abandonnés en montagne. Non, l'objectif, c'était vraiment de prendre différents exemples et à partir de ces différents exemples, eh bien, de pouvoir monter en généralité sur ce phénomène d'abandon villageois. Autre petite précision, je serais incapable de vous dire combien il existe de villages abandonnés en montagne, dans les Pyrénées ou dans les Alpes. Plusieurs centaines, plusieurs milliers sans doute. Néanmoins, il n'y a pas d'inventaire officiel, que ce soit en France, en Italie ou en Espagne, qui recenserait eh bien, les unités de vie qui ont été délaissées au cours du XXe siècle. Alors en Maurienne, j'ai travaillé sur deux vallées perpendiculaires, trois vallées pardon, perpendiculaires, la vallée des Villars, pas très loin d'ici, sur plusieurs hameaux abandonnés, la vallée des Arves, avec sur fond couverte essentiellement le hameau de Sur-la-Roche, tout petit hameau, pas très loin du ravin et du tunnel de la Combe-Genin, et le hameau de Charvin, où là la dynamique elle est totalement différente. J'ai également travaillé sur le secteur du Til, sur Saint-Michel-de-Maurienne, au niveau des hameaux du Bois-Dessus, du Bois-Dessous et des Basilières. Et après, quelques secteurs en Haute-Maurienne qui, eux, sont plutôt marqués par des dynamiques de réappropriation intéressantes. Hein. Vous en connaissez sûrement, Avérolles, les Vincendières sur Bessan, ou encore la Chalpe sur Bessan. Mais aussi, je me suis intéressé au hameau le plus haut de la vallée de la Maurienne, hein, l'Écho, sur Bonneval-sur-Arc. Alors finalement, ce que j'ai trouvé intéressant avec mon objet d'étude, c'est que dans village abandonné, il y a deux termes qui normalement vont pas très bien ensemble. Parce qu'un village, c'est quelque chose de fondamentalement approprié par une communauté, souvent villageoise, une communauté rurale. C'est un espace qui est vécu par des populations, qui est aménagé, habité, exploité. Et finalement, quand on associe ce terme de village à celui d'abandon, bah, ça montre quand même qu'il s'est passé quelque chose. On est passé d'un espace vécu qui, comme le dit Henri Lefebvre, le village, c'est vraiment la forme première de fixation au sol d'une population. Et donc moi, j'ai essayé d'appréhender l'articulation du terme village avec celui d'abandonné. Et dans ma thèse, j'ai proposé cette définition. Alors là, je l'ai un peu raccourci hein, pour qu'elle rentre dans la diapositive. Dans la thèse, elle prend plusieurs pages. Mais un village abandonné, dans le sens où je l'ai entendu, c'est un site d'habitat permanent ayant été occupé, aménagé et exploité, en somme vécu, mais qui a été intégralement délaissé à un moment de son histoire par l'intégralité de ses habitants. Et à partir du moment où ces sites sont délaissés, eh bien, vous avez de nouvelles dynamiques qui vont se mettre en place, qui vont affecter et ou transformer eh bien, les restes qu'ont laissés les personnes après leur départ. Je voulais insister aussi sur le terme de permanent, puisque dans mon travail, je ne me suis focalisé que sur les sites qui ont eu une population qui vivait à l'année. Des hameaux, des communes, des chefs-lieux, des lieux d'habitat permanent. De fait, ça exclut en fait l'ensemble des sites d'estive, d'alpage, de montagnette qui étaient occupés de manière estivale et saisonnière. Et c'est vrai que j'ai essayé d'entendre le terme de village abandonné au sens large, c'est-à-dire d'un espace vécu abandonné. Et finalement, en fonction des secteurs sur lesquels j'ai travaillé, ce n'est pas le même type d'entités qui ont été abandonnées. Dans les Alpes du Nord françaises et dans les Alpes italiennes, j'ai travaillé essentiellement sur des hameaux. Donc, c'est-à-dire, c'est un hameau qui a été abandonné sur une commune qui, elle, ne l'est pas et qui compte encore des habitants. Ça marche très bien avec le cas du hameau de Sur-la-Roche. On ne peut pas dire que Foncouverte soit une commune abandonnée, loin de là. Par contre, ce hameau l'est totalement. Par contre, dans les Alpes du Sud et également du côté espagnol, j'ai travaillé cette fois sur des communes intégralement abandonnées. Donc, c'est souvent des superficies bien plus importantes. Ça comprenait à la fois un abandon du chef-lieu, mais aussi de l'intégralité des hameaux qui constituaient ces communes. Donc, ça peut expliquer certaines différences, notamment lorsque je travaille sur des églises abandonnées. Sauf à de rares exceptions, et ça marche tout à fait avec Charvin, hein, mais sauf à de rares exceptions, il n'y a pas d'église dans un hameau, sauf si le hameau a été érigé en paroisse. Alors l'objectif de ce travail, c'était tout simplement, ça m'a pris quand même 3 ans hein, et 829 pages, mais l'objectif, c'était de retracer les trajectoires d'abandon, mais aussi de réappropriation potentielle des villages abandonnés en montagne, afin de comprendre eh bien, comment ces entités délaissées illustre une forme extrême de dépeuplement, puisqu'on connaît tous des communes qui ont perdu de manière significative leur population au cours du siècle dernier. Par contre, toutes les communes qui ont perdu des habitants face à l'exode rural ne sont pas devenues des villages abandonnés. Et on va essayer de voir dans cette présentation pourquoi est-ce que certains sites, eux, sont arrivés à un état d'abandon total. Et plus largement, l'objectif, c'était essayer de voir finalement à travers ces petits villages, eh bien, comment les territoires ruraux, pyrénéens, alpins, ont au cours des 150 dernières années connu d'importantes transformations, notamment avec l'évolution des sociétés françaises, italiennes et espagnoles. Alors pour ce faire, et je pense que j'ai dû l'indiquer au début, ma thèse c'est une thèse de géographie, ce n'est pas une thèse d'histoire, hein, contrairement à ce qu'on pourrait peut-être penser. C'est une thèse de géographie, mais qui mobilise une approche géohistorique, c'est-à-dire regarder dans le passé pour comprendre la structuration actuelle des territoires d'aujourd'hui. Donc pour ça, j'ai appréhendé 3 pas de temps différents. Le 19e siècle, et notamment la deuxième partie du 19e siècle, qui marque à la fois l'apogée démographique et de mise en culture des territoires ruraux montagnards dans les Alpes et dans les Pyrénées, mais également le début de l'exode rural. Le deuxième temps que j'ai appréhendé, c'est le XXe siècle, qui lui marque une accélération de l'exode rural entre le début, donc 1900, et disons la décennie 1970. 1970 pour la France, 1980 et 90 pour l'Espagne, on pourrait dire. Il y a un petit décalage temporel. Et c'est ce qui faisait que, notamment au milieu du XXe siècle, vous avez toute une presse qui mettait en avant eh bien, le drame que représentaient les villages abandonnés. Vous avez un extrait ici, avec un extrait d'un magazine qui date de 1950. Et le troisième temps que j'ai abordé dans mon travail, c'est la période actuelle, le XXIe siècle, qui laisse place à des formes de réappropriation possibles. Alors, je vais commencer tout de suite sur ce qui peut sembler le plus triste, c'est pourquoi ces villages ont été abandonnés. Mais pour comprendre pourquoi ils ont été abandonnés, il faut d'abord que je vous indique que l'ensemble des 81 villages sur lesquels j'ai travaillé, ils ont une particularité, c'est qu'ils se situent tous de manière isolée en pleine montagne. Quand je dis isolés, c'est-à-dire qu'ils sont souvent très loin des fonds de vallée, très loin également des grandes villes, encore plus loin des grandes métropoles. Ils sont aussi souvent, pour les hameaux abandonnés, très loin de leur centre communal. Quand vous viviez dans le hameau de Sur-la-Roche, sur fond couvert, pour aller à la messe le dimanche juste ici, il fallait déjà être motivé, hein. Bon, les habitants le faisaient, mais il y avait quand même pas mal de distance, voire de dénivelé à parcourir. Donc finalement, l'ensemble des villages sur lesquels j'ai travaillé, ils se situent tous de manière isolée, à l'écart, en pleine montagne. Et on va essayer tout d'abord de comprendre pourquoi est-ce que des personnes trouvaient un intérêt à vivre de manière, en position isolée. Donc tout d'abord, comme je l'indiquais, le 19e siècle, c'est le moment où vous avez un apogée démographique. Qui dit apogée démographique, dit apogée également de mise en culture des territoires. C'est à ce moment-là, finalement, qu'est atteint une superficie de mise en culture la plus importante, que ce soit dans les Alpes ou dans les Pyrénées. Et en fin de compte, l'avantage d'avoir un village à l'écart, c'est que vous pouviez avoir accès à toute une série d'espaces agricoles qui allaient du jardin au verger en passant par le pré de fauche, les pâturages, voire également les alpages, donc qui permettaient à une famille d'avoir accès à tous ces petits ensembles, ce qui devenait de plus en plus compliqué dans les espaces dits centraux où vous aviez une pression démographique très importante. Et finalement, quand on se trouvait par exemple à Oran, alors Oran c'est une ancienne commune qui n'a jamais dépassé les 100-110 habitants hein, dans les Alpes de Haute-Provence. Sur cette photo, qu'est-ce qu'on voit apparaître? Un village quand même resserré sur lui-même par rapport au risque d'avalanche, mais aussi pour garder un maximum d'espace dédié à l'agriculture. Et si on met un peu de couleur, qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est que finalement, la superficie agricole, elle est bien plus vaste que celle de l'entité bâtie, puisque justement, il y avait un intérêt stratégique à avoir une maîtrise d'un vaste espace agricole, puisqu'on était en présence de communautés villageoises qui vivaient d'une petite agriculture vivrière. Autrement dit, tout ce qu'ils produisaient, ils le consommaient. On pourrait passer toute une série d'exemples hein, où finalement votre village il était resserré et tout autour, l'espace agricole, lui, il était beaucoup plus vaste. Et donc, si on prend le cas du hameau de Sur-la-Roche, ça marche aussi. Donc, je ne sais pas si vous vous situez, vous avez ici le tracé du grand tunnel qui traverse et qui ressort au niveau de la combe Genin. Vous avez le cours d'eau ici, en fond de vallée. Et donc, quand vous étiez au niveau de la route, par exemple, actuellement départementale, par le passé sans doute nationale, il vous fallait emprunter un sentier pour aller jusqu'au hameau de Sur-la-Roche à 1335 mètres d'altitude. Alors, ce que j'aime bien avec cette carte, c'est que finalement, elle enlève la végétation. On est sur ce qu'on appelle un modèle numérique de terrain. Ça permet d'ôter la végétation et donc de se rendre compte de quelque chose d'intéressant. C'est que de part et d'autre, mais surtout à l'aval du village, tout le secteur était aménagé en terrasse. On voit très bien ici les délimitations de chaque terrasse. Et finalement, vous aviez autour du hameau de Sur-la-Roche un vaste espace agricole où les populations pouvaient planter quelques cultures, mais surtout faire pâturer essentiellement leurs ovins et les quelques bovins qu'il pouvait y avoir. Par ailleurs, il y a une autre explication dans certains cas qui justifie un positionnement isolé en pleine montagne. Alors, ça ne marche pas sur fond couvert, et encore, mais ça marche dans beaucoup d'autres cas. C'est des villages qui étaient isolés en fond de vallon, au fond d'un versant, mais qui finalement, aujourd'hui, peuvent sembler isolés, mais par le passé, étaient traversés par d'importantes voies de communication qui passaient par les sommets. C'est ce qu'on appelle en fait des villages de pied de col. Ils se trouvaient à l'aval du col, et en fin de compte, vous aviez toute une série de passages militaires, colporteurs, marchands, etc., étudiants, qui allaient et venaient de part et d'autre de ces cols. Je vous place ici, c'est une carte géohistorique, donc c'est une carte qui représente l'espace autour de la vallée de la Tarentaise et de l'autre côté de la frontière de la vallée du Val Grisanche et du Val de Rhême, voire aussi du Val Zavaranche dans le Val d'Aoste. C'est une carte qui montre ce secteur tel qu'il était au XIXe siècle. C'est ce qui explique, par exemple, qu'il n'y ait pas le barrage du Chevril. Ce n'est pas une erreur de ma part, on va dire. Et donc, qu'est-ce qu'on se rend compte en regardant ces cartes? C'est que finalement, de Sainte-Foy-de-Tarentaise, vous aviez des axes de communication qui arrivaient dans le haut de la vallée de Val-Grisanche via le col du Mont. Et dans ce secteur, eh bien, il y avait plusieurs petits villages qui vivaient d'une agriculture, mais aussi finalement de cette activité de passage. Il y avait des auberges, des hôtels, un maréchal ferrant, etc., qui donc pouvaient avoir une petite activité qui complétait l'activité agricole. C'est le même cas dans la vallée du Val de Rhême. Alors, les passages étaient importants, même si plus réduits qu'au niveau du col du Mont, puisque quand vous vouliez aller de Val d'Isère à Rhême-Notre-Dame, voire à Aoste, eh bien, il fallait passer le col de Rhême-Golette à plus de 3300 mètres d'altitude. Et je tiens quand même à préciser que c'est un col qui était franchi toute l'année, même en hiver. Alors qu'aujourd'hui encore, alors dans un état beaucoup plus problématique, hein, un glacier est présent sur ce col. Voilà, je vous ai placé ici un petit point, le village de Suriers que j'ai étudié. Voilà le village de Suriers, donc ce n'était pas très grand. Ça, le village a compté jusqu'à 60 habitants au début du XXe siècle. C'est un petit village de pied de col, avec à l'amont le col du Mont qu'on observe sur cette photo. Donc d'où j'ai pris la photo, je suis en Italie et je regarde du côté français et du côté de la vallée de la Tarentaise. Mais finalement, vivre aussi éloigné, ça avait quand même certaines contraintes. Là, on est dans le Valgrana, dans le Piémont en Italie. Je vous ai pris cette photo depuis le chef-lieu d'une commune. Et finalement, au loin, et on ne l'aperçoit même pas, vous avez un hameau qui comprenait plus de 150 habitants au milieu du 19e siècle. Et depuis le chef-lieu, il fallait plus de 2h45 de marche. Il fallait limite doubler en hiver, hein, parce qu'il fallait déneiger, avec un sentier relativement escarpé hein, qui remonte les pentes du vallon. Donc c'est sûr que c'est magnifique. Hein. Par contre, vivre à l'année dans ce secteur, ça pouvait présenter toute une série de contraintes. Même chose ici, là on est en Espagne, dans la Sierra de Guara. Vous avez une partie qu'on aperçoit ici du village d'Otine. Finalement, quand vous étiez à Otine et que vous vouliez aller chez le médecin, il fallait 5 heures de marche minimum. Et je dis bien minimum. Hein. Si vous vouliez aller à la ville la plus proche, il fallait bien une journée de marche. Donc ça vous donne aussi une idée. Et même moi, d'ailleurs, pour me rendre à Otine, il m'a fallu aller-retour 8 heures de marche depuis le secteur où j'avais pu garer ma voiture. Donc ça donne aussi une idée du fait que certains villages étaient très isolés en pleine montagne. D'autres exemples, ici, on est dans les Alpes de Haute-Provence avec des villages qu'on pourrait appeler perchés. Hein. On n'est pas très loin de Digne. Alors oui, pas très loin, à vol d'oiseau. À pied, c'est plus compliqué pour aller à Digne. Hein. Quand on habitait à Tanaron ou à Esclangon. Mais finalement, ces villages, ils avaient beau être éloignés, ils n'étaient pas non plus sans axes de communication. Je vous ai pris un exemple ici dans les Hautes-Alpes, l'ancienne commune de Saint-Cyrus. Qu'est-ce qu'on aperçoit tout autour sur le cadastre napoléonien de 1835? C'est toute une série de sentiers. Parce que finalement, ces villages, ils étaient quadrillés par un réseau de sentiers et de chemins muletiers qui permettaient de desservir la commune voisine, le chef-lieu, la ville la plus proche, mais aussi les secteurs d'alpage, les secteurs agricoles tout proches. Donc il y avait vraiment des sentiers qui étaient entretenus toute l'année par des corvées réalisées par les habitants. Et là aussi, on voit toute l'importance de la communauté villageoise à entretenir ces sentiers qui permettaient aux personnes d'aller et venir. Et ça me permet notamment de réfuter quelque chose. Dans tous ces villages, ces habitants ne vivaient pas du tout en autarcie. Il y avait des va-et-vient quotidiens pour différentes raisons. Mais les gens allaient et venaient, même en hiver. Alors, les déplacements étaient peut-être un peu plus réduits, notamment lorsque vous avez des avalanches, mais je reviendrai sur ça un peu plus loin. Et bien sûr, ce qui était important, c'était quand même d'avoir un mulet. Ça, c'était quelque chose de, sinon indispensable, d'extrêmement important. Par contre, comme je l'indiquais, vous aviez des déplacements qui s'imposaient. Alors, quand votre commune, elle était très isolée, bon, vous aviez votre mairie, votre école, votre église. Par contre, quand c'est le hameau qui était très isolé, eh bien, les enfants devaient, lorsque vous n'aviez pas d'école de hameau, eh bien, devaient aller à pied jusqu'au chef-lieu tous les jours. Dans certains cas, ça pouvait représenter jusqu'à 7, 8 km aller-retour pour les enfants tous les jours. Sachant qu'à l'époque, les enfants allaient en priorité à l'école en hiver, parce que l'été, ils travaillaient en extérieur. Hein. Donc, ça vous donne une idée aussi des conditions de va-et-vient. On voit ici, c'est un extrait d'un film tourné par le réalisateur Luc Moulet, pour ceux qui connaissent. Hein. Luc Moulet, c'est un réalisateur qui a commencé sa carrière avec Jean-Luc Godard, mais qui a quand même moins percé, on va dire, que Jean-Luc Godard, mais qui a fait pas mal de films, notamment sur les villages isolés des Alpes du Sud. Et là, il filme le va-et-vient des habitants en plein hiver pour accéder à la commune de Mario. Mario, c'est une commune pas très loin de Barcelonnette, alors à vol d'oiseau, pas très loin, mais jusqu'en 1960, c'est la dernière commune totalement inaccessible par la route en France. Il n'y a aucune route pour accéder à Mario, alors même que la seule personne qui a une voiture à Mario, c'est le maire. Et donc le maire, à partir du moment où il gare sa voiture, il lui faut 2 heures de marche pour aller jusqu'à chez lui. Alors Mario a été un peu plus connu de manière dramatique récemment. C'est sur cette ancienne commune qui aujourd'hui a été rattachée à la commune de Prat-Haute-Bléone. C'est sur cette commune qu'a eu lieu le crash de la Germanwings en 2015. Et c'est d'ailleurs sur la commune voisine, pour vous situer un peu, la commune voisine, c'est la commune du Vernet, où a eu lieu le drame avec le petit Émile il n'y a pas si longtemps de ça. Autre aspect important, c'est aussi le facteur. Le facteur, il allait et venait tous les jours, même si votre village, il était éloigné. Alors, c'est sûr que si vous n'aimiez pas votre facteur, le plus simple, c'était de s'abonner au Dauphiné Libéré, par exemple. Donc, je vous ai mis ici une illustration du petit journal qui date du début du XXe siècle. Mais je vous ai mis également un extrait vidéo, si je reviens juste en arrière, qui se situe ici. C'est un reportage vidéo qui a eu lieu en 1947 avec un facteur qui monte depuis Digne. Donc Digne, on est à 15 km, hein, qui monte tous les jours à Tanaron. Je vous laisse regarder. Hein. Alors, là, on est en 1947. Le village, en 1948, est abandonné définitivement. En même temps, il ne restait plus qu'un habitant. Mais je reviendrai plus loin sur ce qu'est devenu Tanaron. Alors, autre chose importante, vivre de manière isolée, ça avait des incidences, justement, je l'indiquais, l'hiver. Et Élisée Reclus expliquait, donc géographe, en 1895, dans Histoire d'une montagne, eh bien, que les montagnards étaient réputés pour construire dans des secteurs où ils pouvaient être protégés des avalanches. Je pense que vous avez toutes et tous un jour entendu cette formulation. Hein. Vous avez ici le hameau de Narbona dans le Haut Valgrana. Et qu'est-ce qu'on observe sur cette photo? C'est un village tout en longueur. Et finalement, de part et d'autre, vous avez deux couloirs d'avalanches. Par contre, ça a une incidence. L'hiver, pour sortir de village, les habitants creusaient des galeries et passaient donc sous l'avalanche tout, à chaque fois qu'ils avaient besoin de descendre au niveau du chef-lieu de la commune. Narbona est toujours abandonné aujourd'hui, hein, et c'est un village qui tombe en grande partie en ruine. Hein. Par contre, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'Élisée Reclus, dans ses écrits, il mettait en avant aussi le fait, bah, finalement, cette affirmation que les montagnards savaient construire là où il n'y avait pas de risque, ça ne marche pas tout à fait. D'ailleurs, dans l'histoire d'une montagne, il évoque toute une série de villages qui ont été rasés par une avalanche ou un glissement de terrain et qui ont été reconstruits par la suite. Et il met très bien en avant le fait aussi qu'une dynamique de versant peut évoluer au fil du temps et finalement votre avalanche qui n'était pas présente dans ce secteur va le devenir. Un déboisement trop important va entraîner eh bien, le fait qu'il peut y avoir une avalanche qui va arriver l'hiver suivant. Voilà. Par contre, ce qu'il met en avant aussi dans son histoire d'une montagne, eh bien, c'est que ses habitants, s'ils reconstruisaient systématiquement, c'est tout simplement parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Ils étaient obligés de rester, c'était leur seule propriété, alors bâtie mais également foncière pour les terres agricoles. Et donc, dans un contexte notamment au 19e siècle d'apogée démographique, c'était très compliqué pour ces personnes de dire « eh bien, je vais partir un peu plus loin ». Donc voilà un peu pour ces conditions de vie de manière isolée et l'avalanche, elle peut quand même être importante. Là, c'est une photo que j'ai faite fin mars 2024. On est au Vincendière dans la vallée d'Aveyrolles, une partie des ruines du hameau des Vincendières. Quand on regarde l'avalanche, elle est quand même très près, très 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 près. Donc voilà, c'est des villages qui souvent étaient effleurés par l'avalanche et certains ont pu être emportés et reconstruits fréquemment. Alors, maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi ces villages isolés ont été abandonnés. On peut mettre en avant plusieurs raisons. La première grande raison, c'est l'exode rural et l'industrialisation des fonds de vallée, des grandes villes et des secteurs de plaine. Car finalement, quand vous viviez dans un petit village comme celui de Tumel, c'est un village de pied de col dans le Haut-Val de Rême en Italie, eh bien, vous étiez très très loin, au début du XXe siècle, des nouvelles centralités territoriales. Jusqu'au XIXe siècle, ce qui était important pour ces habitants, c'était les pâturages, les jardins, les vergers, tout ce qui leur permettait de vivre. Par contre, à partir de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, dans la vallée d'Aoste et dans le Piémont, eh bien, apparaissent de très grandes usines. L'usine Cogne à Aoste, mais aussi l'usine Turin, Fiat à Turin. Et finalement, ces deux modèles, ils étaient tout à fait incompatibles. Quand vous viviez à Tumel, il n'était pas pensable d'aller travailler tous les jours ne serait-ce qu'à l'usine Cogne en fond de vallée. Et donc, progressivement, les habitants sont partis afin justement de décrocher des emplois dans des secteurs industriels. Le départ, il a aussi été une opportunité pour ces personnes, puisque dans certains cas, ils pouvaient s'extraire d'une condition de vie extrêmement précaire jusque-là. Ça marche aussi dans la vallée de la Maurienne. Là, on est dans la vallée des Villars, le hameau du Boucher. Quand vous viviez au hameau du Boucher sur Saint-Alban-des-Villars, c'est trop compliqué d'aller travailler tous les jours aux usines Boson-Verduras qui se situent sur Saint-Étienne-de-Cuisnes. Et progressivement, des habitants sont partis. Autre facteur possible qui peut s'ajouter avec le phénomène d'industrialisation, c'est la survenue d'une catastrophe dans une période de déclin démographique. Je vais prendre un exemple ici. En 81, le hameau du Tremble sur Saint-Étienne-de-Cuisnes, donc pas très loin, en Maurienne, eh bien, il est intégralement rasé par l'avalanche du Mont Cuchet. À cette époque-là, le hameau compte 4 habitants permanents. Il en comptait une trentaine en 1900. Donc la plupart étaient partis progressivement, notamment pour travailler en fond de vallée à Saint-Étienne-de-Cuisnes, mais aussi à Saint-Michel-de-Maurienne, à Saint-Jean-de-Maurienne. Et finalement, en 81, lorsque l'avalanche passe, qu'elle rase le village, elle tue ce jour-là 2 habitants. 2 habitants, ça représente 50% de la population de ce hameau. Alors, ça fait sourire, mais finalement, les deux rescapés ont décidé par la suite de ne pas se réinstaller dans ce village. Et voici le même bâtiment aujourd'hui. Autre facteur possible, alors, c'est moins le cas dans les Alpes du Nord, mais dans les Alpes du Sud, ça a été un facteur d'abandon très important. C'est la mise en œuvre de politiques publiques d'aménagement du territoire et notamment la politique de reboisement menée par le service des eaux et forêts, et notamment à travers la politique du RTM. Vous avez ici un secteur que vous connaissez peut-être de nom Chaudin. Chaudin, c'est un village qui se situe pas très loin de Gap, mais pareil, pas très loin à vol d'oiseau. Parce que quand vous êtes à Chaudin, vous vivez dans une cuvette, ce vallon du Petit Buèche, où finalement, le vallon, il est enneigé 7 mois de l'année. Ça vous donne une idée un peu des conditions de vie. Et finalement, avec cette nécessité des habitants, eh bien, de toujours devoir produire pour vivre, puisqu'ils ne pouvaient compter que sur eux-mêmes, eh bien, au fil des siècles, bah, ils ont progressivement participé à déboiser le secteur au sein duquel ils vivaient. Et quand on regarde cette photo, qu'est-ce qu'on observe ? On observe un paysage très minéral et où finalement, vous n'avez quasiment aucun arbre. D'ailleurs, vous avez pas mal de descriptions à l'époque qui présentent Chaudin comme un paysage lunaire. Et donc, à cette époque-là, les habitants ont conscience qu'à force d'avoir déboisé, ils ne sont pas les seuls responsables de ce déboisement. On peut ajouter par le passé les guerres qui ont nécessité le prélèvement de bois dans les forêts. On peut évoquer également au début, à partir des années 1830, le prélèvement du bois dans les dernières forêts restantes pour produire du charbon de bois pour les usines. Mais ils ont été en partie responsables de ce déboisement. Après, on peut voir les choses autrement. C'est parce que aussi l'État ne les a pas forcément aidés qu'ils ont été amenés à devoir faire surpâturer leurs terres. Et finalement, en 1888, l'ensemble des habitants de Chaudin adressent une lettre au ministre de l'Agriculture dans laquelle ils indiquent que, je crois que j'ai mis un extrait juste après, voilà, vaincus par l'indigence, nous avons l'honneur de proposer au gouvernement l'achat du territoire de notre commune. Nous avons appris que le gouvernement faisait des concessions de terrain en Algérie à ceux qui ont l'intention de coloniser. En présence d'une situation géographique et géologique aussi mauvaise que celle de Chaudin, nous n'hésiterons pas, monsieur le ministre, à émigrer sur le sol si fertile de l'Afrique française. Donc on est en pleine période coloniale. Là, je vous ai mis seulement un extrait de la lettre. C'est une lettre qui fait 2 pages et qui décrit point par point vraiment les conditions de vie misérables dans lesquelles vivent ces habitants. Ce qui est notamment évoqué, c'est le nombre de tombes dans le cimetière de Chaudin qui concernent des enfants morts avant 1 ou 2 ans. Voilà, donc on est vraiment dans une situation de pauvreté et de précarité extrême. Ça s'observe d'ailleurs par rapport à l'apparence des bâtiments. On est sur des bâtiments absolument pas isolés, en chaume, et dans un secteur qui était finalement devenu, pour une grande partie des terres, progressivement stérile à cause du déboisement et du surpâturage. Et finalement, l'État va trouver intéressant d'acheter Chaudin pour pouvoir faire partir les habitants et pouvoir ainsi reboiser. Et à cette époque-là, les forestiers préfèrent se débarrasser des habitants pour pouvoir avoir vraiment une liberté totale en matière de politique de reboisement. C'est ce qui s'est passé dans les Hautes-Alpes, en partie aussi dans les Alpes de Haute-Provence. Ça a été beaucoup moins le cas dans les Alpes du Nord, où oui, il y a eu du reboisement, sans nécessairement que les forestiers aient poussé dehors certains habitants. Alors vous me direz, à Chaudin, c'est les habitants qui ont demandé. Par contre, Chaudin a créé une première en France. C'est la première fois qu'une commune était vendue pour permettre le reboisement. Et par la suite, des dizaines d'autres communes, cette fois c'est les eaux et forêts, qui vont demander aux communes et aux propriétaires d'acheter leur territoire. Et en 1895, vous avez le journal L'Illustration, donc là une édition nationale, qui titre Chaudin, une commune vendue à l'État. Et pour vous montrer, voici ici le avant-après reboisement par le service de restauration des terrains de montagne. Ce type de politique a pu apparaître comme fortement autoritaire pour des montagnards qui jusque-là n'avaient que très peu côtoyé les autorités étatiques. Et ça l'a été encore beaucoup plus du côté espagnol dans les années 1960 et 1970, sous le régime de Francisco Franco, où là, l'autoritarisme était encore plus important, d'autant plus que Franco avait une triple logique derrière ce reboisement. La première raison qu'il mettait souvent en avant, c'était la raison environnementale, donc de permettre un reboisement de secteurs défrichés à l'extrême pour éviter l'apport de sédiments dans les cours d'eau qui pourraient créer des crues à l'aval, notamment au niveau des grandes villes. Disons que c'était la, la caution, voilà. Derrière ça, vous aviez deux autres logiques. C'était de forcer les gens à partir pour procurer de la main-d'œuvre, et il y en avait besoin à Bilbao, à Madrid et à Barcelone, qui étaient les trois grandes villes industrielles du pays. Et la troisième raison, qui peut sembler la plus sordide, c'est le fait que pendant la guerre d'Espagne, le Haut-Aragon a été un bastion républicain et que finalement, en expropriant des dizaines de villages, Franco mettait fin à toute potentielle base arrière qu'auraient pu représenter ces villages pour un retour, plus ou moins hypothétique, des républicains qui avaient pu fuir en France à partir de 1936. Voilà, donc on a toute une série de raisons politiques qui expliquent aussi pourquoi certains villages ont été abandonnés. On a bien sûr la politique de reboisement en montagne, mais on a aussi la création de grands barrages. Je n'ai pas pris Tignes, puisque je pense que vous connaissez un peu tous le cas de Tignes, donc je suis allé un peu plus loin, le village de Mediano, ici, dans le Haut-Aragon, en Espagne. Donc on est sur un village qui a été totalement ennoyé par Franco dans les années 1960. Donc là, c'est une photo qui date que j'ai fait il y a 3 mois, à Mediano, en tout cas ce qu'il en reste. Par contre, ce qui tend la population aujourd'hui, la population qui elle est restée tout autour, c'est que les barrages ont du mal à être remplis en cause le réchauffement climatique, les sécheresses très importantes qui font que depuis quelques années, le gouvernement aragonais n'arrive plus à remplir les barrages construits par Franco. Et voici l'église de Mediano en 2022, à l'automne. Donc l'église ressort de l'eau et vous voyez un peu le décalage par rapport au niveau de l'eau. Et donc c'est vrai que beaucoup d'habitants estiment que ces barrages n'ont servi même pas une cinquantaine d'années, qu'on a exproprié, qu'on a désorganisé un territoire pour finalement un barrage qui aujourd'hui a du mal à être rentable d'un point de vue économique. Et enfin, dans certains cas de figure, vous avez certains villages qui, au terme d'un exode rural très long, il n'est resté plus qu'un seul habitant. Je l'ai évoqué tout à l'heure par rapport à Tanaron, mais ici, vous avez la dernière habitante du hameau du Boucher sur Saint-Alban-des-Villars. Elle a vécu une année toute seule dans son hameau. Après, elle a été rapatriée par sa famille. Pareil, Louis Allier ici, dernier habitant de Saint-Cyrice, dernier maire de Saint-Cyrice, qui a vécu tout seul pendant 5 ans. Il avait un conseil municipal, mais avec des personnes qui ne vivaient plus sur la commune, par contre qui étaient restées propriétaires. Et j'aime bien prendre cet exemple, c'est un cas extrême, c'est Auguste Germain, là on est sur le hameau du Loup, sur Saint-Étienne-de-Cuisnes. C'est un hameau qui n'a jamais été très grand, jusqu'au début du XXe siècle, il comptait une trentaine d'habitants. Mais il s'est progressivement vidé, et en 1952, il ne reste que 2 personnes, Auguste Germain et son père. En 52, son père décède, et à partir de ce moment-là, il va décider de ne pas partir. Et il va rester vivre seul 25 années, sans eau courante, sans électricité, sans route d'accès, à 45 minutes de marche du hameau le plus proche, à 1h30, 1h45 du chef-lieu de Saint-Étienne-de-Cuisnes. En hiver, les distances étaient rallongées, bien sûr. Mais voilà, il ne va pas vouloir partir. Il va estimer, notamment, il le raconte dans un article du journal Le Progrès, il y a un journaliste qui était venu le rencontrer en 1962, donc seulement 10 ans après. Il allait encore vivre 15 ans tout seul au moment où l'article a été fait. Et donc, il indique dans l'article, le journaliste rapporte ses propos et il indique notamment que se marier, ce n'était pas pour lui et que c'est ce qui explique qu'il est resté dans ce village. Et ça pose bien sûr la question du célibat et notamment du célibat des hommes dans les hautes vallées, notamment alpines, mais également pyrénéennes, au début du XXe siècle. Si ça vous intéresse, ce type de trajectoire moribonde, je peux vous conseiller 2 ouvrages. Le Dernier Feu, qui se passe dans les Basses-Alpes. C'est un roman, mais qui est tiré d'une histoire vraie, celle de Frosinbeck, qui a refusé de quitter son village, tout simplement parce qu'elle estimait qu'on n'abandonne pas ses morts, et son mari était enterré dans le cimetière du village. Autre livre qui se lit un peu mieux, c'est La Pluie jaune, c'est un livre plus récent, qui a une trentaine d'années, qui raconte finalement la fin de vie d'un dernier habitant d'un hameau des Pyrénées espagnoles. Alors, ça se passe en Espagne, mais finalement, ça pourrait autant se passer en Maurienne que dans le Piémont ou dans le Val d'Aoste. Et c'est un habitant qui va voir progressivement partir tout le monde, par la suite, sans vous, tout vous dévoiler, hein, sa femme va rester avec lui, mais elle va finir par se pendre. Son chien se fera piquer par un serpent. Donc voilà, on est sur une fin de vie extrêmement triste, mais ça a été le cas pour de nombreux derniers habitants. Alors à partir du moment où votre village il est abandonné, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il va se passer énormément de choses. Et on va essayer de revenir en détail sur toutes les dynamiques qui se mettent en place. La première dynamique, c'est l'enfrichement. À partir du moment où vous n'entretenez plus un espace, notamment les espaces agricoles, eh bien vous allez avoir une dynamique d'enfrichement. Je vous parlais juste avant d'Auguste Germain. Donc là, vous avez Auguste Germain en 1952 devant sa maison. Voici sa maison en 2021. Voici sa maison en 2024. Il ne reste plus grand-chose. On peut observer, par contre, son lit qui reste en suspens sur une poutre. Alors ça, c'était en 2024. Il est quand même assez... J'y suis pas retourné depuis, mais il y a de grandes chances que le lit soit tombé également. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on observe une dynamique de recolonisation végétale dans le village. Je vais vous montrer ici quelques photos pour vous donner une idée un peu des paysages dans lesquels j'ai pu baigner pendant 3 ans. Ici, on est à Kaori, dans le Val Grana. C'est une photo intéressante puisque ça montre un type d'architecture spécifique au territoire de montagne, c'est-à-dire de construire avec la pente. Le mur arrière de votre maison était en fait le mur aval de la maison du dessus. Et on avait une architecture en escalier. C'est très bien, ça permet d'économiser des matériaux, ça permet aussi, en se chauffant, de garder une certaine chaleur. Par contre, à partir du moment où votre village il est abandonné, ça va concourir à sa perte, puisque vous allez avoir un vrai effet château de cartes ou domino. Lorsque vous avez le bâtiment du haut qui s'écroule, eh bien, il entraîne dans sa chute les suivants. Ici, on est dans le Haut-Aragon, donc on a du mal à distinguer le chef-lieu de cet ancien village avec une église en partie envahie par la végétation. Là, on est juste de l'autre côté, dans la vallée des Villars, une maison en grande partie détruite dans un secteur bien enfriché. Là, on est sur le chef-lieu de l'ancienne commune d'Esclangon, dans les Basses-Alpes, aujourd'hui Alpes de Haute-Provence. Hein. Au premier plan, vous avez la mairie, à l'arrière-plan, l'église, et lorsque je fais la photo, moi, je suis dans l'école. Alors, on a du mal quand même à s'en rendre compte. Pour arriver à savoir que là, c'est l'école, là, c'est l'église, ici, c'est la mairie, le mieux, c'est de regarder le cadastre ancien. Ici, on est sur le hameau du Bois-Dessous, dans la vallée de la Maurienne, sur l'ancienne commune du Til, aujourd'hui rattachée à Saint-Michel-de-Maurienne. Et on voit apparaître les restes d'un pylône électrique et à l'arrière-plan, une partie de ce hameau qui comptait plus d'une trentaine de bâtiments. Là, on a une vue aérienne dans les Alpes de Haute-Provence et on se rend bien compte de la fermeture paysagère qu'implique l'abandon d'un village, puisque l'abandon d'un village est également l'abandon de l'espace agricole. Alors là, c'est en Espagne, l'église a été à 50% avalée par la végétation. Je dis bien à 50% parce que si je mets une photo de l'autre côté, il reste une petite partie encore dégagée et accessible. Mais pour combien de temps? Je ne sais pas. Vous avez une vue sur le village complet qui tend à se fondre finalement dans le paysage. La végétation, elle prend vraiment le dessus et on peut avoir cette vision... une végétation qui va avaler ce que les habitants ont laissé après leur départ. Et dans certains cas, il ne reste vraiment plus beaucoup de choses. Ici, on est dans le petit hameau du Cruet, sur Saint-Alban-des-Villars. Une dizaine de bâtiments, une vingtaine d'habitants au maximum au début du 19e siècle. Aujourd'hui, voilà les restes les plus importants des constructions. On a un second pilier ici. Et donc, cette fermeture paysagère, elle va concerner l'intérieur du village, mais également la périphérie. Si je prends le cas du hameau de Sur-la-Roche, sur fond couverte, vous avez ici différentes vues aériennes entre 1948 et 2020. Donc on a 48, 67, 70, 82, 2009, 2020. En rouge, c'est l'enveloppe du village, l'enveloppe bâtie, qui s'arrête au niveau des limites des maisons. Qu'est-ce qu'on observe? C'est que progressivement, entre 1948 et le début des années 70, en vue aérienne, le village il disparaît sous la végétation qui se développe dans les ruelles, voire même dans les bâtiments qui se sont effondrés. Et je reviendrai sur cet aspect juste après. Par contre, on observe en jaune, ce sont les espaces ouverts, c'est-à-dire les champs, les vergers, les jardins. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est quand même, notamment à l'aval, une rétractation, une fermeture paysagère très importante qui va concerner une grande partie des périphéries de ces villages. Ensuite, l'autre dynamique importante, avant ça peut-être, j'avais oublié, vos terres agricoles, elles sont envahies par la végétation, mais aussi vos vergers. J'ai eu du mal souvent à retrouver la localisation des anciens vergers, puisque tout se confond, vous avez une végétation qui a pris le dessus. Mais par contre, dans le chef-lieu de l'ancienne commune de Mariot, on arrive encore aujourd'hui à distinguer trois anciens vergers, avec des arbres pour la plupart arrivés en sénescence, pour certains déjà morts sur pied, mais on arrive à distinguer un poirier, un pommier, un prunier, qui renvoie aussi au type de fruitier présent par le passé dans ces secteurs montagnards. L'autre dynamique qui se met en place, c'est bien sûr la dégradation du bâti. On va passer d'un bâtiment qui ressemble à peu près à une friche, un bâtiment fermé qui se dégrade, au fil du temps, à un bâtiment qui va de moins en moins ressembler à une construction, mais plutôt à une ruine. Sachant que, à tout moment, on peut passer de l'étape 2 à l'étape 6. Par exemple, un hiver un peu plus rigoureux, le poids de la neige sur la charpente, une charpente qui a connu des infiltrations et de l'humidité, eh bien, vous passez facilement de l'étape 2 à l'étape 4, voire 5. Voilà. Donc là, c'est plus un modèle type. Je vais vous montrer quelques photos. Voilà les ruines auxquelles j'ai pu être confronté. Là, c'est assez impressionnant. Là, c'est dans le hameau du bois de dessous, sur le Til. On a vraiment une végétation qui sort de l'intérieur des bâtiments. Ça se voit très bien ici. Ici, vous avez le chef-lieu de l'ancienne commune de Cressay, dans les Alpes de Haute-Provence, pas très loin de Digne, à vol d'oiseau toujours. Et on voit apparaître sur cette photographie l'église. Là, on est en 1939. L'église est déjà abandonnée, le village l'est également. Et voici ce qui reste de l'église aujourd'hui. Voici également des photos prises à l'intérieur d'églises dans les Pyrénées espagnoles. Alors, les fresques s'effacent, le mobilier a souvent disparu, les voûtes s'effondrent, etc. Même chose ici à Sassé. Alors, extérieurement, on pourrait croire que l'église se tient encore assez bien, mais quand on est dedans, on voit le ciel et non plus la voûte. Voilà encore une autre église. Et bien sûr, dans certains cas, on arrive à des situations extrêmes où on n'arrive plus du tout à distinguer des restes villageois. J'ai peu de cas en Maurienne, peut-être le hameau des Granges, sur la commune de Saint-Colomban-des-Villars. Il est abandonné en 1920. Et c'est vrai que quand on va aujourd'hui sur place, les ruines, elles arrivent à hauteur de cheville, voire légèrement plus haut. Ici, dans le hameau du Jas, sur l'ancienne commune de Lévins, on est pas très loin des gorges du Verdon. Eh bien, si je ne me suis pas géoréférencé et que je ne peux pas savoir que je suis dans un ancien hameau d'habitat permanent qui a compté plus d'une vingtaine d'habitants au début du XXe siècle. Voilà pour la mise en ruine. Maintenant, on peut exposer une autre dynamique, c'est celle de l'oubli. À partir du moment où votre village il est délaissé, il va entrer dans une phase d'oubli individuel. Les gens vont progressivement l'oublier, mais également un oubli à l'échelle collective, à l'échelle d'une commune. Il m'est arrivé des fois d'arriver en mairie, de demander des informations sur tel hameau abandonné, et un élu, une secrétaire de mairie me répond « ce n'est pas sur notre commune », alors même que ça l'est. Et c'est tout simplement qu'au fil des générations, l'existence de ces villages, elle est sortie de l'esprit chez beaucoup de personnes. Mais finalement, pourquoi est-ce que ces villages ont été oubliés? Il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, ils disparaissent des paysages à cause de la fermeture paysagère. Ici, vous avez une photographie prise par le RTM en 1897 sur Saint-Alban-des-Villars, du hameau du Riveau. C'est un hameau qui a été abandonné en 1955. Et lorsque j'ai refait la photo en 2021, on ne le voit plus. Alors que si on va sur place, il y a encore un très grand pont, il y a encore des restes d'un moulin, d'une fontaine, de plusieurs bâtiments, mais depuis l'autre versant, on ne voit absolument plus rien. Par ailleurs, pourquoi on oublie ces villages? Parce qu'aussi, on ne les entend plus. La plupart du temps, les cloches, elles ont été soit retirées, soit, comme dans le cas de Courchon, elles ont été volées. Et une cloche d'église, notamment dans les années 70, sur le marché des brocanteurs et des antiquaires, ça se vendait très bien, en soi encore aujourd'hui. Mais beaucoup ont été dérobés. Par ailleurs, on ne les voit plus non plus la nuit, ces villages. Ici, c'est une carte de la vallée des Villars, dans la vallée de la Maurienne. Donc à l'aval, vous allez avoir Saint-Étienne et Sainte-Marie-de-Cuisne. On remonte en direction du col du Glandon. On observe le versant Beldon de la commune de Saint-Allemand-des-Villars avec chaque point rouge, ce sont les lampadaires. Et les halos jaunes, ce sont les halos de lumière procurés par ces lampadaires. Donc qu'est-ce qu'on observe sur le versant Beldon ? Toute une série de hameaux aujourd'hui habités et éclairés la nuit. Par contre, sur le versant des arbres en face, la situation elle est tout autre. Puisque les quatre hameaux abandonnés, eux, ont vu un arrêt de la production électrique. Souvent, les lignes électriques ont été coupées. Et par exemple, en 1935, le hameau du Cruet, qui se situe ici, il est abandonné. Sa dernière habitante, en allant à la messe, elle glisse sur la passerelle et son corps sera repêché au niveau de Saint-Étienne-de-Cuisne-la-Chambre. Donc en 1935, elle décède, le hameau est abandonné. Et deux ans après, le conseil municipal de Saint-Allemand-des-Villars statue. Il estime que, étant donné que le hameau est abandonné sans qu'il n'y ait de chance que celui-ci reprenne vie, il décide de retirer le lampadaire communal afin de procurer, comme il l'indique, une économie de 50 francs à la commune. Et donc progressivement, ces villages, en plus d'être oubliés, en plus d'être enfrichés, eh bien, deviennent invisibles la nuit. Et voilà une photo, par exemple. C'est très intéressant d'aller dans un village abandonné la nuit. On voit des choses qu'on ne voit pas forcément en journée. Par ailleurs, quand vous abandonnez votre village, vous abandonnez votre maison, votre terre agricole, mais vous abandonnez aussi vos morts. Et bien souvent, ces villages vont se dégrader en même temps que la décomposition des personnes laissées dans les cimetières. Mais bien sûr, les cimetières, ils vont aussi se dégrader en surface, avec des dynamiques d'enfrichement, d'effacement progressif des inscriptions sur les tombes. Par exemple, aussi du pillage. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ici, ces tombes, les croix qui les ornementaient ne sont pas tombées. Si on va vraiment sur place, on se rend compte qu'elles ont été très bien sciées. Une disqueuse ou une scie, voilà. C'est des choses qui se sont produites, notamment dans les années 70-80, quand ces villages étaient encore marqués par peu d'intérêt. Bien sûr, vous avez aussi un effacement des noms. Et à partir du moment où le nom sur une tombe est effacé, c'est irréversible. Votre tombe, elle devient définitivement anonyme. Et souvent, j'ai pu demander à des élus, est-ce que vous avez un plan du cimetière où il y aurait, par exemple, les noms et les emplacements des personnes ? La plupart du temps, on m'a dit que non. Simplement, une fois, un maire m'a répondu en se marrant, c'est simple, dans le cimetière, il y a tout le village. Par contre, entre dire il y a tout le village et dire exactement où est telle ou telle personne, là, c'est impossible. Petit cas que j'aime bien évoquer, ici, on est dans le cimetière de Châtillon-le-Désert. C'est très dur de se figurer à quoi pouvait ressembler cette commune, puisque finalement, la trace la plus parlante, c'est cette dernière tombe dans le cimetière qui est encore visible. Et lorsqu'on s'approche, qu'est-ce qu'on observe ? C'est que c'est la tombe du dernier maire. Voilà. Toutes les autres ont disparu. On aperçoit à des endroits quelques fragments, mais la plupart sont sous la végétation. Alors, là, je vous ai présenté des aspects qui peuvent montrer un côté assez négatif, défaitiste de l'abandon. Par contre, on peut essayer de voir les choses autrement. Abandonner un village, ça peut permettre certaines opportunités, non pas pour des êtres humains, mais pour la faune. Il est de plus en plus dur, notamment en Occident, d'être confronté à des espaces de nature sauvage, vierge, primaire. On en retrouve encore quelques cas dans certaines parties de la Sibérie, certaines parties de l'Amazonie. Mais en Europe, ce n'est plus du tout le cas. Par contre, on voit se développer depuis plusieurs années une végétation qui prolifère au sein de sites abandonnés. Vous avez peut-être déjà vu des photos d'usines abandonnées où finalement, au milieu des bâtiments en briques, toute une végétation se développe. Certains chercheurs ont nommé ce type de végétation et l'ont appelé une nature férale. La féralité, c'est finalement un terme qui vient de la zoologie à la base. C'est un animal domestique qui retourne à l'état sauvage. Finalement, la nature férale, c'est une nature qui s'érige sur les restes de l'anthropisation, c'est-à-dire sur ce que les populations humaines ont laissé après leur départ. Donc, quoi qu'il arrive, ce ne sera jamais une nature vierge, puisqu'elle est alimentée aussi par les ruines qui sont présentes dans ces lieux. Et donc, c'est, la végétation, elle se développe, elle peut être assez importante. Vous avez ici une carte du hameau de Sur-la-Roche. Et j'ai mis du temps pour arriver à cette carte. Parce que j'ai mesuré chaque arbre avec un mètre de couture. Alors, des fois, il m'a fallu un mètre un peu plus grand pour mesurer le diamètre. Donc, chaque point représente un arbre en fonction du diamètre. Qu'est-ce qu'on voit apparaître également? C'est une prédominance des frênes dans ce village, mais on a également un peu d'érable, du sapin, de l'épicéa, notamment une remontée de l'épicéa depuis l'un des versants, des merisiers, du groseillier sauvage des Alpes, etc. Mais ce qui est surtout intéressant sur cette carte, c'est qu'on a des très gros arbres, on en voit ici, on a des arbres beaucoup plus petits, mais on a aussi des arbres dans des bâtiments. Donc dans ma thèse, j'ai travaillé notamment en lien avec le... J'avais pu rencontrer des personnes du laboratoire d'écologie alpine, qui est en partie sur Grenoble, mais moi j'avais surtout échangé avec ceux de l'Université Savoie-Mont-Blanc. Et j'en suis arrivé à développer une approche de dendrochronologie, c'est-à-dire d'aller dans un village avec une toute petite percerette, de faire un tout petit trou au pied de l'arbre et d'en extraire une carotte. Après, en laboratoire, il suffit, ça prend du temps quand même, à l'aide d'un microscope, on va compter les cernes de l'arbre et on va arriver à dater l'âge de l'arbre. Alors, le seul problème, c'est si l'intérieur de votre arbre est creux. Ça arrive, notamment chez les très vieux arbres, et dans ces cas-là, ça peut fausser les informations. Donc, j'avais fait cette expérience avec des collègues de l'Université Savoie-Mont-Blanc dans le hameau de Sur-la-Roche. Alors, on n'a pas fait un trou dans chaque arbre, on a pris un échantillon représentatif, autant de grands arbres que d'arbres de taille, de diamètre moyen et de petit diamètre. Et voilà à quoi on arrive, à un graphique barbare, en tout cas comme il peut apparaître ici, hein. Mais qu'est-ce qu'on peut distinguer? Là, vous avez 13 échantillons d'arbres avec l'âge, le point rouge, c'est l'âge de germination de l'arbre, c'est-à-dire le premier cerne. Le point jaune, c'est l'arbre du dernier cerne enregistré, donc qui correspond à l'année 2023 au moment où j'ai fait mes prélèvements. Mais ce qui est surtout très intéressant, c'est de voir les couleurs à l'arrière. Vous avez cette partie-là. On est sur les arbres les plus gros, les plus anciens. C'est souvent des arbres qui étaient là avant l'abandon. C'était des arbres qui étaient sélectionnés pour rester dans les villages, pour permettre de faire de l'ombre aux bâtiments, mais aussi de faire de la feuille pour nourrir notamment les chèvres. Ensuite, on a une deuxième génération d'arbres ici, entre 1950 et les années 70, qui se développe après l'abandon. Le hameau de Sur-la-Roche, il est vraiment abandonné définitivement dans la décennie 1940. Donc moins de 10 ans après, on a toute une série d'arbres qui se mettent à pousser dans les ruelles essentiellement. Et enfin, on a une troisième génération d'arbres, c'est celle qui apparaît dans les bâtiments à partir de la fin des années 70. Et en fait, de dater ces arbres, ça permet d'avoir une information précieuse. C'est que les arbres les plus jeunes, ceux qui apparaissent dans les années 70-80, ils se situent dans les ruines. Ça veut dire que c'est... Que le village il est abandonné dans les années 40, les toitures vont progressivement se dégrader et que c'est seulement à partir des années 70 que des arbres vont pouvoir pousser à l'intérieur. Donc ça veut dire que c'est au cours des années 70 que les charpentes et les toitures se sont effondrées et que les arbres ont pu pousser. Donc ça donne une information sur les pas de temps de la dégradation d'un bâtiment. Concrètement, voilà, ça donne des très gros arbres, des arbres de taille plus réduites dans les ruelles et des arbres souvent beaucoup plus petits à l'intérieur des bâtiments en ruine. Voilà ce qu'il est possible de faire. Donc finalement, votre village, il laisse l'opportunité au développement d'une nouvelle forme de nature, d'une végétation souvent importante et notamment dans un contexte de réchauffement climatique. Ça ne peut être que bénéfique, en dehors des cas d'incendie bien sûr. Autre aspect intéressant, c'est que ces villages délaissés, ils deviennent propices à l'investissement de l'espace par la faune sauvage. Puisque d'un lieu qui était habité par des êtres humains et où les animaux souvent ne s'aventuraient pas, on va avoir des villages ici, on est ici dans Sur-la-Roche, un sanglier qui mange à l'intérieur d'une ancienne habitation, une ruine. Je vais vous montrer quelques photos. Hein. On a un bestiaire très intéressant hein, qui va du chevreuil... au cerf, à la marmotte, au renard, au sanglier, à la biche. Je n'ai pas réussi à voir le loup, mais bon. Voilà, là, on est au niveau de la chapelle de Sur-la-Roche, sur fond couverte. Ce qui est très intéressant, le hameau de Sur-la-Roche est un secteur où il n'y a qu'un chamois, mais j'ai des photos où il y a jusqu'à 15 chamois en même temps sur la photo. c'est un espace qui est vraiment investi par les chamois. Bon, voilà, on a des cerfs également. Et surtout, je voulais vous montrer ces photos prises dans le hameau de Sur-la-Roche pour vous montrer à quel point ces villages, en l'absence d'occupants humains, eh bien, peuvent devenir sûrs pour ces animaux. Ces animaux qui peuvent même aller jusqu'à dormir sans craindre de se faire réveiller en plein hiver ici. Voilà. Ces espaces, ils sont également investis à l'intérieur aussi, dans les bâtiments, par la faune sauvage. Ici, on est en Espagne. Je vais vous montrer deux courtes vidéos avec des chèvres sauvages qui investissent les bâtiments, mais qui participent aussi à leur dégradation puisqu'elles font tomber des pierres et des poutres. Elles sont d'autant plus tranquilles dans ce village qu'on se situe dans un parc naturel où la chasse n'est pas autorisée. Ça... Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que certaines vont dormir dans les anciennes écuries. Je vais vous montrer une seconde vidéo. Donc là, on est vraiment à l'intérieur d'un bâtiment. Elles vont, elles viennent, elles font leur vie en soi. Hein. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui était impensable avant l'abandon d'un village. Bien sûr, à partir du moment où votre espace il est investi par la faune sauvage, eh ben, il peut être également investi par les chasseurs. Donc bien sûr, mes pièges photos ont des fois enregistré la présence de chasseurs poursuivant des cerfs à l'intérieur même d'un village abandonné. Ici, on est dans le hameau du Cruet sur Saint-Alban-des-Villars. Il n'y a pas que des chasseurs qui peuvent investir ces espaces réensauvagés. On a également les chercheurs de champignons. Puisque à l'intérieur de certaines ruines, ici, on est sur l'encadrement d'une fenêtre, on a des morilles qui poussent. Voilà. Donc finalement, on peut essayer d'avoir une vision négative, comme une vision peut-être qu'il est un peu moins avec cette faune sauvage qui a investi les lieux, avec cette végétation qui peut également amener un peu plus de fraîcheur, notamment au moment des étés caniculaires, en particulier celui-ci, hein. Donc voilà, tout dépend comment on souhaite percevoir ces villages. Pour terminer, je serai un peu plus court, je voudrais évoquer le cas de villages qui peuvent reprendre vie au terme d'un temps d'abandon plus ou moins long. Ça peut aller de quelques décennies à 40 ou 50 ans. Après, lorsque par contre le village dépasse souvent 50 ans d'abandon, il n'y a plus grand-chose à se réapproprier puisque tout est au ras du sol. Ici, on est sur le village du Poil. Si vous vous souvenez, la première photographie noir et blanc que j'avais montrée, c'était le Poil abandonné. Et voici le Poil aujourd'hui. Donc, c'était un village qui s'était installé tout en longueur pour laisser le plus de place à l'espace agricole, qui était en plus protégé par la roche. Alors, tout à l'heure, on a regardé la vidéo qui se passait dans le hameau de Tanaron en 1947. Tanaron est abandonné en 1948. Le village va progressivement se dégrader. Vous avez une photo du village en 1967. Deux bâtiments restent encore debout, la mairie et l'école. Et donc, et plus à l'aval, au fond de la vallée du Bèze, vous avez Digne, la préfecture des Alpes de Haute-Provence. Et donc, Tanaron va être racheté par un groupe de jeunes dans le mouvement de mai 68 pour en faire un secteur d'expérimentation de petites communautés rurales utopiques afin de remonter ce bâtiment à l'aide de chantiers de jeunes. Et ça va marcher. Toute la décennie 1970, tous les étés, il va y avoir des chantiers et progressivement, le village va reprendre vie. À la fin des années 70, ce groupe de jeunes va s'éclater pour différentes raisons. Hein. Certains vont aller faire des études, d'autres vont être appelés au service militaire, certains vont avoir des enfants. Et le village va être progressivement revendu bâtiment par bâtiment. Et aujourd'hui, il n'est pas retombé dans une phase d'abandon. Et quasiment tous les bâtiments, à l'exception de l'église qui se trouve sous cet arbre, eh bien, tous les bâtiments ont été reconstruits. Voire, il y en a même des nouveaux. Alors par contre, pour comprendre pourquoi un village reprend vie, il faut un facteur indispensable, c'est le désenclavement. Concrètement, si sur fond couvert, Charvin a pu reprendre vie après un temps de dormance plus ou moins important, c'est parce qu'une piste a été faite dans les années 1970. Sans désenclavement, vous n'avez pas de réhabilitation de village abandonné. Puisque retaper un village sans pouvoir y accéder avec une voiture ou un petit camion, c'est très compliqué. Donc ça, c'est le facteur indispensable. Et de nombreux villages ont vu la création de pistes forestières, pas forcément dédiées au village, mais qui sont passées à proximité, comme à Charvin, ou même dans le village dans certains cas, pour desservir non pas un village, mais une forêt. Et donc, ça a permis à des personnes d'envisager de réhabiliter un village délaissé. L'autre aspect, c'est finalement que ces villages, ils peuvent aujourd'hui intéresser. Ici, on est sur la commune de Saint-Étienne-de-Cuisnes avec le village du Montion. Le Montion, c'est un village qui est abandonné définitivement en 1975. Pour information, c'était le hameau le plus peuplé de Saint-Étienne-de-Cuisnes au début du XXe siècle, en dehors du chef-lieu. Donc, quand il est abandonné en 1975, vous avez toute une série de dégradations qui se mettent en place. Et en 1992, une piste est créée. Alors, elle ne part pas de Saint-Étienne-de-Cuisnes, mais de Saint-Alban-des-Villars, mais elle a été créée, elle désenclave aujourd'hui le site. Et depuis 1992, vous avez une dynamique de reconstruction qui s'est mise en place. Et si on dézoome avec un appareil photo, on se rend compte sur ces clichés que c'est un hameau qui est vraiment isolé en pleine montagne. Et finalement, ça attire aujourd'hui. C'est-à-dire un cadre montagnard, la proximité avec la nature, le silence, la tranquillité, l'isolement, ce sont des facteurs qui attirent. Et finalement, au Montion, les nouveaux propriétaires sont soit des personnes originaires de ce village, des descendants, des petits-enfants, qui en ont fait une résidence secondaire, soit des personnes, des Chambériens, des gens d'Aix-les-Bains que j'ai pu rencontrer et qui en ont fait une résidence secondaire. Parce que isolés, en pleine montagne, avec encore des tarifs assez abordables. Vous avez un autre cas ici, Oran. Alors Oran, on est vraiment au milieu de nulle part. Et on est à l'extrémité est du département des Alpes de Haute-Provence. Mais finalement, on n'est pas très très loin. On est à 1h15 de Nice, 2h15 d'Aix-en-Provence. Et donc, vous avez des personnes qui ont racheté des bâtiments et qui ont réhabilité le village. Bien sûr, quand vous réhabilitez dans un village abandonné, faut vraiment partir de souvent pas grand-chose. Souvent même, ça aurait été plus simple de partir de rien du tout. Puisque ça nécessite souvent des travaux importants. Les bâtiments se sont dégradés après plusieurs années laissés sans entretien. Ici, on a un bâtiment dans les Vincendières, ici dans le hameau du Montion, des bâtiments donc fortement dégradés. Et voici après restauration. Voilà. Donc, on a des bâtiments pour les trois là qu'on aperçoit sur ces deux photos. Ce sont devenus des lieux de villégiature. Il est très rare qu'un hameau ou un village abandonné redevienne un site d'habitat permanent. Parce que quoi qu'il arrive, il est quand même très isolé, même si désenclavé. Donc souvent, en matière de réinvestissement, c'est pour de la villégiature. Donc de la résidence secondaire, en général entre le mois d'avril et le mois d'octobre, à la belle saison. Et bien sûr, pour réhabiliter dans ces villages, souvent, il faut s'adapter avec des tout petits véhicules. À l'écho, par exemple, vous ne pouvez pas passer en voiture dans les ruelles de l'écho. Donc, ça nécessite vraiment aussi de s'adapter pour son chantier de restauration. Dans d'autres cas de figure, certains villages peuvent être rachetés en intégralité pour en faire des sites touristiques. C'est ce qui s'est passé à Valliera, on est dans le Haut Valgrana, sur la commune de Castelmagno. On est à 1h30 de Cuneo, la deuxième ville du Piémont. Et en 2004, ce village, vraiment accroché à la pente, hein, entre deux couloirs d'avalanche. Alors aujourd'hui, le risque est un peu moins prononcé puisque le secteur est fortement reboisé de manière naturelle. Hein. Mais en 2004, vous avez un groupe qui décide, une structure hein, qui décide de racheter le village pour en faire un site d'agritourisme, c'est-à-dire moitié tourisme, moitié agriculture. Et finalement, toute la partie aval du village va devenir un secteur donc, de tables d'hôtes et chambres d'hôtes dans les anciens bâtiments du village. Et la partie amont va voir la création d'une petite coopérative laitière avec quand même une petite dynamique de réouverture des terres plus haut afin de produire du fromage, et pas n'importe quel fromage, le Castelmagno qui porte le nom de la commune, qui est un fromage assez connu dans cette partie du Piémont puisque c'est un fromage AOP. Et donc à Castelmagno et à Valira, depuis 2004, vous avez un site eh bien, qui est devenu un site touristique, mais également agricole. Je vous ai mis ici quelques photographies. On aperçoit les fromages produits sur place, le fromage du Castelmagno, dont chaque variante prend le nom d'un village abandonné situé tout autour de Valira. Par exemple, je vous parlais tout à l'heure du hameau de Narbona. Dernière configuration possible, on pourrait en évoquer plein d'autres, hein, le squat ou autre, hein, mais moi je vais m'arrêter ici avec la question de la patrimonialisation, puisque depuis quelques années, on est quand même rentré dans une ère du tout patrimoine, où il semble nécessaire et important de préserver des éléments qui témoignent d'une vie passée, d'une dynamique également aujourd'hui révolue. Et finalement, dans cette ère du tout patrimoine, vous avez toute une série de petits villages abandonnés, qui sont identifiés localement comme étant porteurs de valeurs patrimoniales, car incarnant eh bien, cette architecture montagnard vernaculaire, cette structuration en communauté villageoise aujourd'hui disparue. Et donc, vous avez de nombreuses associations de mise en valeur du patrimoine qui vont s'impliquer, soit de manière matérielle, en restaurant des bâtiments, soit de manière immatérielle, en entretenant la mémoire de ces villages, en les faisant aussi sortir de l'oubli, la rédaction de monographies locales, par exemple, ou de conférences, ça marche aussi. Hein. Et d'une certaine manière, c'est un peu ce que je fais ce soir. Hein. Par contre, ces villages abandonnés, ça ne sera jamais du grand patrimoine. Un petit village abandonné, une petite chapelle en pleine montagne dans un village en ruine, ça ne peut pas rivaliser avec Notre-Dame de Paris. Donc là, je pense qu'il n'y avait même pas besoin de préciser. Par contre, vous pouvez avoir des petites actions de restauration qui visent à reconstruire en intégralité la chapelle ou l'église, ou dans certains cas, d'autres choix sont opérés. Ici, sur l'ancienne commune de Mario, la municipalité a décidé non pas de reconstruire en intégralité l'église, mais de la stabiliser partiellement. Donc, vous avez une partie du toit qui a été refait, qui permet aux randonneurs de venir s'abriter en cas de pluie ou d'orage. Le reste de la ruine a été stabilisé à l'aide de ciment sur les sommets des murs. Mais l'objectif, c'est quand même de montrer qu'on n'est pas sur une église tout à fait normale. On est sur une église qui a été abandonnée dans un village qui, lui, est toujours intégralement abandonné. Dans d'autres cas de figure, vous pouvez voir également la création de petits musées, d'écomusées dans certains villages abandonnés. Ici, on est dans le massif du Grand Paradis, dans la vallée de l'Orco. Donc, pas très loin de Turin, un bâtiment a été restauré par le Parc National du Grand Paradis et dedans a été recréée la salle de classe telle qu'elle était au début du XXe siècle. Alors, le seul problème, c'est que le parc n'a pas trouvé un modèle, stable pour faire visiter ce musée qui est tout le temps fermé parce que, il faut quand même plusieurs heures de marche pour aller jusqu'à ce musée et c'est très compliqué de trouver des personnes qui le fassent visiter. Par contre, vous avez la possibilité de l'observer depuis l'extérieur, depuis les fenêtres. Autre cas, sur l'UBAC, pas très loin de Barcelonnette, sur la commune de Josier, un musée à ciel ouvert est prévu, était prévu lorsque je faisais ma thèse, il a été achevé l'année dernière. Là, c'est une photo qui date de 2023. Ce qu'a fait la mairie, c'est qu'elle a abattu l'intégralité des arbres qui avaient poussé à l'intérieur. Elle a mis du gravier, elle a stabilisé le sommet des murs, et l'objectif, c'était d'installer des panneaux d'information qui racontent l'histoire de ce village, et notamment les raisons qui ont poussé l'intégralité des habitants à partir vivre en Louisiane, voire au Mexique. Voilà. Enfin, dernier cas de figure, eh bien, pour éviter le problème qui s'est posé dans ce hameau du massif du Grand Paradis, en termes d'un petit musée qui n'est pas accessible, certains projets ont permis la création de musées, non pas dans le village abandonné, mais sur le reste du territoire communal, notamment dans le chef-lieu d'une commune habitée. C'est le cas ici du petit musée de la Casa Narbona, en référence au village de Narbona, que j'ai présenté un peu plus tôt là, dans la soirée. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? À partir de 2014, des bénévoles se sont motivés à aller chercher les restes, les derniers éléments de mobilier, qui, soit qui n'avaient pas été volés, soit qui n'étaient pas encore sous les décombres, pour justement créer ce petit musée qui est visité toute l'année. Et en sortant du musée, bien sûr, vous avez des dépliants touristiques qui vous invitent à aller visiter, pour ceux qui le peuvent, le hameau de Narbona. Et il faut compter 2h30, 2h45 de marche pour se rendre jusqu'au village, avec 350, 400 mètres de dénivelé. Donc, ce n'est pas forcément accessible à tous, mais au moins, ceux qui ne peuvent pas aller jusqu'au village peuvent découvrir son histoire dans ce petit musée. Alors, pour terminer, je vais simplement indiquer trois petites choses. Finalement, on peut voir, notamment à travers la résurrection d'un village, une forme de cycle. On passe d'un village approprié à un village abandonné, à un village qui redevient approprié, donc réapproprié. Par ailleurs, la réappropriation, ce qu'elle a d'intéressant, c'est qu'elle montre aussi que l'abandon, ce n'est pas forcément définitif. Ça peut être temporaire, 10 ans, 15 ans, 30 ans, 40 ans. Par ailleurs, on a vu également que l'abandon pouvait être bénéfique d'un point de vue environnemental. Et surtout, ces petits villages abandonnés en montagne, ils permettent quand même de se rendre compte de l'importance de la transformation des territoires ruraux montagnards d'Europe occidentale, puisqu'en l'espace de 150 ans, on a totalement changé de modèle de vie et de structuration au sein des espaces ruraux. On est passé d'une structuration autour de communautés villageoises à un modèle qui aujourd'hui est tout à fait différent. Donc là, c'est une figure de synthèse qui apparaît, j'ai essayé de la faire brève, hein. Dans la thèse, elle est un peu plus dense. Voilà. Et donc, si vous êtes intéressé d'en savoir un peu plus, et avant que oui, je voulais terminer sur une photo de l'église de Charvin avant la réhabilitation de la toiture du clocher. Hein. Mais si vous souhaitez un peu en savoir plus, ma thèse est accessible intégralement en ligne sur le site thèse.fr. Et elle fera l'objet d'une publication plus petite en livre en janvier 2027, avec une publication qui se concentrera uniquement sur les Alpes françaises et italiennes. Voilà. Merci. Si vous avez des questions auxquelles je peux répondre, c'est avec plaisir.
Au 19e siècle, on était 1400 habitants à Vancouver. La station s'est créée. Il y a des lits, beaucoup de lits froids qui se sont créés. Donc, on crée toujours des lits froids. C'est-à-dire que maintenant, au dernier recensement, 450 habitants. Il y a 10 ans, on était 500-550. Comment vous analysez ce phénomène?
Bah, ce phénomène, il peut être analysé assez simplement. Tout ça, quand on observe finalement la trajectoire de ces territoires de montagne, à un moment donné, à partir de la fin du 19e siècle, le modèle agricole qui faisait vivre ces territoires est devenu progressivement obsolète. Et, les autorités, les acteurs de ces territoires ont souvent cherché des solutions pour contrebalancer le déclin de cette activité vivrière. Et souvent, les regards se sont portés sur le tourisme, avec du coup quand même des externalités négatives. Hein. La question des lits froids, c'est une vraie problématique en montagne, avec certaines communes des fois qui deviennent des communes même dortoirs. Hein. J'aurais pas plus d'éléments de réponse ou en tout cas de solutions sur ça. Après, il s'agit aussi de choix politiques, alors sans forcément d'une politique nationale, d'une politique locale. Hein.
Je crois que l'agriculture, c'est plus des agriculteurs, c'est des éleveurs, sont beaucoup responsables. Parce que toutes les terres maintenant sont gelées. On ne peut rien faire. C'est-à-dire que l'installation peut créer, hein, on construit des lits froids à tout va, et ailleurs, ben, on regarde des fonds couverts, il n'y a rien.
Alors,
on ne peut plus rien faire. Et au contraire, il y a beaucoup de bâtiments qui tombent en ruine. Regarde, visite les fonds couverts.
Ça me fait penser à quelque chose que je n'ai pas forcément évoqué ici. C'est la question que j'aborde dans la thèse, hein, c'est la problématique urbanistique. Puisque de très nombreux villages abandonnés, aujourd'hui, ne peuvent plus être reconstruits, puisque gelés d'un point de vue urbanistique dans les documents d'urbanisme, notamment les PLU, pour éviter que ces villages ne reprennent vie. Non pas que ça ne soit pas forcément voulu localement, mais si votre village y reprend vie, La municipalité, si elle accorde un permis, elle est obligée d'amener l'eau, l'électricité, l'assainissement, de garantir l'accès aux secours en toute saison, et notamment en saison hivernale. Et beaucoup de municipalités, notamment des petites communes rurales, notamment celles qui n'ont pas forcément une manne financière qui viendrait d'une activité touristique, bah, c'est assez impensable pour elles d'investir de telles sommes. Ça pourrait représenter un gouffre financier.
Mais quel intérêt pour les fonds couvertants ?
Je ne saurais pas répondre à ça. Désolé.
Sans parler de réinvestir,
oui,
pour se réapproprier les villages, est-ce que ce n'est pas non plus une cause d'abandon ? Parce qu'il y a un moment, on a voulu avoir le même confort pour tout le monde, ce qui n'était pas le cas au début du XXe siècle. Donc est-ce qu'à ce moment-là, les communes n'ont pas été aussi, se sont pas heurtées déjà, même pour des villages non abandonnés ? Est-ce que ça n'est pas une cause d'abandon de dire qu'on n'a pas les moyens de les raccorder à l'eau, tout à l'égout, les choses comme ça ?
Ce qui s'est vraiment passé dans le cas de ces villages, je l'ai fait apparaître en pointillé là, dans ma présentation, c'est souvent que ces villages n'ont jamais vu arriver la route. N'ont jamais vu arriver la route parce que le poids démographique, notamment au début du XXe siècle, était devenu tellement faible après 30-40 ans de déclin démographique que les autorités municipales, départementales, nationales ont souvent estimé, sans forcément que ce soit une vraie politique planifiée, mais ont souvent estimé bien que c'était trop coûteux de désenclaver l'ensemble des villages isolés et que de toute façon, les choses allaient se faire assez naturellement. Hein. Sans route, eh bien, les habitants sont partis parce qu'il s'est créé vraiment à ce moment-là une injustice socio-spatiale. C'est-à-dire que vous aviez dans le hameau de Sur-la-Roche un village où en 1935 le seul moyen d'y accéder c'était un sentier muletier, alors même que la plupart des autres hameaux de la commune étaient desservis par la route, par des autobus, tout le monde pouvait avoir une voiture, certains champs pouvaient être mécanisés à l'aide de tracteurs. Et donc, dans certains cas, les villages isolés ont été un peu exclus de cette modernisation. Oui.
C'est l'extrême, le village sur la roche. C'est l'extrême, parce que moi, j'ai connu une personne qui était venue là-haut, qui m'a expliqué qu'on attachait les enfants dans les maisons pour pas qu'ils tombent dans le ravin. Donc, quand ils étaient petits, bon, ça, c'est l'extrême. Mais là, le village de d'Elambert, il est accessible en voiture, et tout ça, complètement, il est à l'abandon.
Après, vous avez quand même aussi autre chose qui se passe, c'est quoi qu'il arrive, en France, même en Italie, en Espagne, il y a un caractère sacré sur la propriété privée. Même si votre bâtiment est abandonné, derrière chacun de ces bâtiments, il y a un propriétaire. Alors souvent un propriétaire qui, au cadastre, est une personne née au 19e siècle, donc souvent décédée, hein, mais il y a des héritiers présomptifs. Et quoi qu'il arrive, même si votre bâtiment tombe en ruine, sauf si une municipalité met en place une procédure bien 100 mètres, pour récupérer les bâtiments, ben, globalement, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Et le problème de la procédure bien 100 mètres, c'est que ça prend longtemps. Il faut attendre déjà 30 ans avant de pouvoir la mettre en place. Et après, pour des petites communes rurales, souvent, c'est énergivore en termes de temps humain passé par une municipalité sur ce type de dossier. Et ça a aussi un coût.
Qu'est-ce qui a fait qu'il y a certains villages qui ont pu être réhabilités et pas d'autres ?
Alors,
quels sont les facteurs favorables de la
réhabilitation ? Notamment d'un point de vue urbanistique, vous en avez beaucoup, dont les premières réhabilitations émergent dans les années 70 et surtout dans les années 80, c'est-à-dire juste avant la loi Montagne, à une époque où il y avait quand même, d'un point de vue urbanistique, une plus grande permissivité. On pouvait plus facilement reconstruire. Tout le monde n'avait pas encore le réflexe de demander un permis de construire. Et finalement, à partir du moment où quelques bâtiments ont été réhabilités. Par la suite, il a été très compliqué aux élus de refuser un permis pour une ruine à côté. Par contre, dans certains cas aussi, il y a des stratégies qui ont pu être mises en place par les élus locaux en accord avec souvent la DDT, souvent, pas systématiquement. Mais si je prends le cas du hameau de Charvin, c'est un cas très intéressant que j'ai abordé dans ma thèse, puisque le hameau de Charvin, il est classé... Dans un document d'urbanisme, vous avez trois types de zones. La zone A, la zone U urbanisable, la zone A agricole et la zone N naturelle. La zone N, elle est réputée inconstructible. Le hameau de Charvin, lorsque la commune de Fontcouverte a fait le PLU en 2004, le premier plan local d'urbanisme, elle s'est retrouvée confrontée à une difficulté. Charvin, c'était compliqué de le mettre en zone U. puisqu'il n'y avait pas de raccordement à l'eau potable à ce moment-là, il n'y avait pas de raccordement à une route au sens de route carrossable, goudronnée, accessible toute l'année. Voilà.
C'est... Vélo, seulement quand ils ont agrandi les tunnels, ils leur ont coupé l'eau.
Voilà. Voilà. Et du coup, vous aviez des villages, vous aviez ce village qui était un peu une épine dans le pied de la municipalité. Qu'est-ce qu'on en fait ? Ça n'avait pas forcément de sens de le placer en zone agricole. Donc, la logique aurait été de le mettre en zone naturelle. Sauf que mettre Charvin en zone naturelle, ça nécessitait de bloquer les réhabilitations. Donc, à l'époque, les élus ont opté pour ce qu'on appelle une zone NH. C'est-à-dire, c'est un pastillage qui permet au milieu d'une vaste zone N d'avoir une petite enveloppe NH, c'est-à-dire une zone naturelle où il y a quand même du bâti que l'on peut réhabiliter. Et ça, c'est très intéressant parce que ça a permis, en fait, à Charvin, d'un point de vue urbanistique, ça a permis à la municipalité de pouvoir donner des permis de reconstruire. Par contre, une chose intéressante, cette zone NH, depuis 2011, elle a été décrétée par le législateur comme illégal. Tout le pastillage en zone N, alors à fond couvert c'est NH, mais ailleurs ça peut être du NA, du NB en fonction de comment les élus ont choisi, ça a été décrété par un arrêté du Conseil d'État comme inconstitutionnel. Et donc beaucoup de communes aujourd'hui se retrouvent dans une difficulté puisqu'au moment de refaire le PLU, il n'est plus possible pour la commune de reclasser un hameau en zone NH ou NA, etc. Donc certaines, comme Saint-Étienne-de-Cuisnes, ont trouvé une parade, en quelque sorte. Ça marche aussi pour Bonneval, ça marche aussi pour Bessan. C'est que les hameaux de l'Écho, d'Aveyrol, des Vincendières ou du Montion sur Saint-Étienne-de-Cuisnes, c'était des lieux d'habitat permanent. Or, aujourd'hui, dans les plans locaux d'urbanisme, ils sont considérés comme des chalets d'alpage. Puisque ça permet, au regard de la loi montagne, d'avoir une possibilité dérogatoire et donc de pouvoir réhabiliter le village sans que la commune n'ait à amener les réseaux. Par contre, pour les services de la DDT, donc de la Direction départementale des territoires, c'est un vrai casse-tête, puisqu'ils se retrouvent à devoir statuer sur des dossiers de réhabilitation de bâtiments qui passent en commission chalet d'alpage, alors même que ce ne sont pas des chalets d'alpage, les bâtiments. Donc, d'un point de vue urbanistique, c'est très compliqué, et c'est souvent un casse-tête à la fois pour les services de l'État, mais aussi pour les municipalités. Voilà. C'est vrai que je ne suis pas revenu sur cet aspect dans la présentation, mais c'est une grosse partie de la thèse, puisque c'est vrai que je ne l'ai pas dit non plus, mais la thèse a été financée par plusieurs structures publiques, notamment des communautés de communes, la 3CMA, anciennement la 4C, mais aussi les CAUE de la Savoie, de la Haute-Savoie, qui étaient intéressées justement par les résultats de la thèse d'un point de vue de la construction et de l'urbanisme. Oui, désolé.
Moi, j'étais maire à l'époque en 77. Et en 77, donc le village de Charvin, puisqu'on l'évoque, était entièrement enclavé. Et avec mon collègue Alain, qui était ici dedans, qui était mon maire adjoint, et nous avions donc réalisé l'alimentation en eau potable. Enfin, pas potable, parce que c'est très, comme très calcaire. Hein. Alors on a mis un plimout qui permettait quand même aux gens de bénéficier d'un petit peu d'eau pour le bétail. Et puis par ailleurs, ce dont je me souviens aussi, c'est la difficulté que nous avons eue pour faire la route d'accès au village. Parce que le foncier était problématique, il y avait beaucoup de dissidence entre les gens qu'on n'aimait pas trop, qu'on ne voulait pas donner raison au maire.
C'est assez classique. Hein.
Voilà. Mais il y a un autre aspect de cette situation qui me restera en mémoire, c'est l'enterrement d'un villageois de Charvin. Alors à l'époque, les gens partaient de la route 926, qui va au cerf des arbres, pour monter le cercueil jusqu'au village, puisqu'il n'y avait pas d'accès autrement que par le haut. L'accès par le haut n'existait pas. Mais ça m'a beaucoup frappé parce que monter un cercueil et l'entreposer à des endroits spécifiques, notamment c'est souvent des dalles, des pierres rondes, qui étaient souvent au pied des croix ou n'importe quoi. C'est là qu'on posait le cercueil. Ça a beaucoup frappé de voir ces porteurs qui se relayaient monter jusqu'au cimetière de Charvin. Alors ça c'est une scène que je ne reverrai plus, évidemment.
Mais c'est vraiment une scène que j'ai pu retrouver ailleurs, hein, dans plein de villages, notamment quand votre village est abandonné, certains habitants âgés qui étaient partis ont demandé à leur mort à se faire enterrer dans le vieux village abandonné. Et souvent, ça a créé quand même des sépultures assez cocasses, notamment lorsque la personne décédait en hiver. Qui voulaient rester avec
avec leurs morts.
Oui.
Est-ce que vous avez une idée de ce qu'on faisait des morts en plein hiver?
Alors, ça fait partie d'un chapitre de ma thèse. Notamment, vous aviez plusieurs solutions. Il y a eu la solution de les sortir, notamment quand le village était coupé, par exemple, par une avalanche. C'était très fréquent à l'écho, sur Bonneval, à Vérol ou au Vincendière. Souvent, ils étaient placés soit sur le toit et recouverts de neige jusqu'au printemps. Au Vincendière, si vous allez un peu à l'aval du village, alors il faut savoir où c'est, hein. Moi, je me suis fait guider par quelqu'un de la commune. Il y a ce qu'ils appellent la grotte des morts, qui est en fait une petite cavité dans la roche où ils allaient stocker, entreposer le défunt, puisque c'était un secteur qui était englacé l'hiver, pour le garder jusqu'au printemps. Après, le seul souci que j'ai eu avec ça, c'est que je n'ai pas trouvé de source exacte. C'est toujours quelque chose qui m'a été raconté, sans qu'on soit capable de me dire c'est arrivé en telle année et pour telle personne.
Bon, voilà. C'est ce qu'on disait sur la commune de Fourcouverte avec le village de Vernebuis qui est complètement isolé, qui est en pleine forêt. Nos ancêtres nous ont toujours dit qu'ils les faisaient congeler dans la grange jusqu'à la belle saison, ce qui se rapproche un petit peu de la Haute-Maurienne.
Après, ce que certaines personnes, notamment très âgées, me disaient quand même, c'est qu'il y a moitié de légende, moitié de véracité. C'est-à-dire que ce n'était pas quelque chose de systématique. C'était notamment quelque chose qui arrivait quand vraiment il n'était pas possible de descendre la personne. Mais lorsque c'était un hiver où vous aviez quand même la possibilité de faire le chemin et de le descendre, en général, le transport s'effectuait. Mais forcément, il s'est forcément passé des épisodes où ça a été plus compliqué. Ouais, brancard ou traîneau.
Non, mais il faisait d'abord un chemin avec un mulet, un minimum.
De toute façon, ça devait être très compliqué. Enfin, je pense qu'on a du mal aujourd'hui à se rendre compte de ce que pouvaient être les va-et-vient en plein hiver quand on vivait dans ce type de village très isolé.
C'est ce qui se passait à Charval. C'est mon père qui était conseiller municipal à l'époque, en 1945. C'est trop fort. Les gens, mon père, ils gueulaient. Enfin bon, il était comme il était au conseil municipal. Ils étaient un petit peu délégués.
Ouais.
Pour aller préparer les sépultures, pour aller préparer l'église, pour aller préparer le chemin. Et il râlait, il dit c'est pas possible, ces charbonnins, ils meurent tous en hiver.
Ça change. Après,
ils descendaient le cercueil sur une luge, où on servait pour faire du bois le froid, puis ils retenaient avec une corde derrière.
Surtout qu'à Charvin, l'église, elle est très récente par rapport à d'autres églises qu'on peut trouver dans la vallée de la Maurienne. Je crois que l'inauguration, c'est 1895. Et c'est aussi justement parce que s'il y a une église à Charvin, c'est aussi parce que le village était trop isolé du centre de la commune.
Il y avait un curé.
Moi, j'avais pas mal travaillé sur les lettres des habitants qui réclamaient la création d'une paroisse parce que pour eux, le plus simple, c'était d'aller sur Saint-Jean d'Arve à la messe. Mais quoi qu'il arrive, ils ne se seraient jamais résolus à aller à Saint-Jean d'Arve pour des histoires de guerre de clochers. Hein. Et ils préféraient aller jusqu'au chef-lieu de Fourcouverte. Même si c'était plus loin.
Mais l'église est réhabilitée.
Ouais. Oui, ce qui a, à mon sens, ce qui a vraiment desservi l'église, c'est qu'elle a été construite en dehors du village. Parce que je comprends la logique à l'époque. L'église de Charvin, comme c'est présenté dans les documents d'archives, c'est pas l'église du village de Charvin, c'est l'église de Charvin, de Combérard, de la Brévière, de Sur-la-Roche. Voilà. Alors au centre, quand même plus proche de Charvin. Mais finalement, aujourd'hui, ça la dessert totalement, puisque la piste d'accès ne va pas jusqu'à la...
C'est comme l'école.
C'est exactement comme l'école. Non, mais ça a été vraiment, dans la thèse, un cas très intéressant, parce que C'est le seul cas que j'ai abordé où on a créé une église dans un village isolé, mais on ne l'a pas créée dans le village, on l'a créée en dehors. Bon.
À l'école, elle n'est pas très vieille. Hein. L'école, c'est...
Je crois que c'est 1897. 90 ou 97, et, mais finalement, elle a fonctionné assez peu de temps. Hein.
Oui.
Puisque je crois au début de la décennie 1920, elle ferme parce qu'il n'y a plus assez d'enfants pour maintenir un instituteur. Oui.
Hmm?
Plus tard ? C'est possible, alors je dois confondre avec un autre.
Une dame qui était institutrice là-bas, donc qui est décédée, il y a quoi, madame ? Elle est décédée.
Oui, donc ça doit être un peu plus tard. Mais je sais que c'est écrit, quand c'est écrit sur la, il y a une petite pancarte qui a été fixée devant l'école. Oui.
Moi, je voulais vous demander, vous avez étudié justement l'Espagne et l'Italie, et du coup, par rapport, vous disiez, par rapport à l'État français, la réhabilitation, etc. Est-ce que l'Italie et l'Espagne sont plus souples?
C'est plus strict en France.
Voilà.
Bah, déjà, il y a une chose importante. En France, il y a la loi Montagne. Il y a, en Italie ou en Espagne, que vous soyez en plaine ou en montagne, il n'y a pas de loi qui différencie le type de secteur. Donc il n'y a pas de loi spécifique à la montagne. En Espagne, beaucoup de personnes qui ont réhabilité me disaient, et c'est un dicton, hein, qu'il vaut mieux demander pardon que demander un permis des fois. C'est-à-dire qu'il vaut mieux demander pardon après avoir construit qu'un permis avant, parce qu'au moins on ne prend pas le risque de se voir refuser le permis. Voilà. Et c'est vrai que d'un point de vue urbanistique, les villages que j'ai étudiés en Espagne, ils sont assez différents en termes de réappropriation puisque la plupart sont squattés, donc, c'est-à-dire sans titre de propriété. Par contre, on n'est pas du tout sur un squat comme on pourrait peut-être l'imaginer. On est vraiment sur un squat où à l'intérieur, moi j'ai rencontré par exemple quelqu'un qui vit sur place, un journaliste d'un grand quotidien belge, un informaticien qui travaille pour une multinationale hollandaise et qui gère à distance le service informatique. Donc c'est des squatteurs mais qui ont la Wi-Fi, qui ont des bâtiments très bien réhabilités et qui en fait, quoi qu'il arrive, seront toujours tranquilles, dans le sens où les municipalités que j'ai rencontrées m'ont indiqué en fait, en Espagne, il y a eu 40 ans de dictature, une guerre civile, et souvent en fait les descendants n'ont plus du tout de titre de propriété. Donc quoi qu'il arrive, ils sont assez tranquilles. Sachant qu'il y a aussi une petite différence, c'est que la pression foncière, notamment le prix du foncier dans les Pyrénées aragonaises, est plus bas que dans les Pyrénées françaises et notamment dans les Alpes du Nord. Aujourd'hui, à l'éco, une ruine, vous pouvez l'acheter 300 000 euros. Un bâtiment réhabilité, vous pouvez le payer 600 000, 700 000 euros.
C'est ce qui s'est passé au col de la Madeleine, après,
c'est sûr que sur le Montyon, il y a encore quelques années, vous pouviez acheter un bâtiment pour 5 000 euros. Ça dépend des secteurs où on se trouve. Mais c'est vrai que voilà, il y a plus de rigidité d'un point de vue urbanistique en montagne en France que dans les deux autres pays. Elle est mise en place en 85, elle est révisée en 2016 et elle est re-révisée il y a un mois.
Cette loi Montagne, c'était surtout à un moment donné pour les droits de passage, pour les remontées mécaniques, parce que cette loi descend dit qu'à partir du moment où il y a de la neige, on ne peut pas interdire de passer dessus, hein, même sur les propriétés privées. Et au niveau des remontées mécaniques, pour avoir des droits de passage, hein, il fallait des autorisations, et alors que certains propriétaires n'étaient pas toujours d'accord, donc la loi Besson, justement, a permis de pouvoir utiliser pour faire un domaine ski.
Bah, ça a changé beaucoup de choses en montagne, ça c'est certain. Que ce soit l'acte 1 de la loi montagne ou l'acte 2 de 2016, voire même l'acte 3 qui va arriver. Hein. Est-ce qu'il y a encore... c'est une dernière question, je ne sais pas. Non ? Oui ?
C'est juste par rapport à vos études, par rapport au temps que vous avez mis, vous avez fait combien de kilomètres à pied?
Ah. Je peux peut-être vous montrer vite fait. En fait, il faut prendre en compte deux choses. Il faut prendre le fait que certains villages sont accessibles via une piste, mais que moi, ma voiture, qui est une Clio, ne peut pas prendre la piste. Donc, il y a beaucoup de villages qui, même s'ils auraient été accessibles, j'ai été obligé d'accéder à pied. Et donc, si je vous montre peut-être quelque chose qui peut vous intéresser. Alors. Hop. Et. Bon, je vais vous montrer ça. Est-ce que. Je ne sais pas si ça va marcher. Bon, ça veut peut-être pas se projeter. Bon, tant pis. Ça dépend des villages. Il y a des villages où j'ai marché, le plus que j'ai pu marcher pour accéder à un village, c'est 8 km. Après, je partais pas forcément du centre de la commune, je m'avançais en voiture. Après, le problème, c'est qu'on est en montagne, donc 8 km, ce n'est pas très représentatif. Voilà, vous pouvez avoir 8 km à plat, ce n'est pas comme 8 km avec 700 mètres de dénivelé. En heure de marche. Le plus long en heure de marche, c'est dans la Sierra de Guara, en Espagne, aller-retour 8 heures. Donc, disons 4 bonnes heures de marche pour aller dans le village. Voilà. Non, j'ai pas calculé. J'avais des amis qui avaient calculé le poids du nombre de livres que j'avais dû lire pour faire la thèse. Je me souviens plus du poids, mais le nombre de kilomètres, non, j'ai pas. C'est vrai que j'aurais pu, mais j'ai pas. Bah, merci beaucoup en tout cas. Merci.